des cités en proie aux flammes, des hordes d'êtres passés au fil de l'épée par des armées inhumaines vêtues d'armures écarlates, ou encore des créatures contournées vomies par les entrailles de la terre pour semer la mort et la destruction. Si ces figurations constituent à n'en pas douter des exagérations grossières ou de pures inventions, leur uniformité tend à indiquer que la masse territoriale hébergeant de nos jours le plus gros de l'Empire volarien fut autrefois le théâtre d'un conflit aux proportions quasi génocidaires, et dont on ne sait pratiquement rien, sinon qu'il a précédé l'émergence des premières communautés identifiables, tributaires du commerce et par conséquent productrices d'une abondante correspondance. La première référence au nom moderne de Kétia remonte à quelque 1600 ans, soit près d'un siècle avant la naissance de notre propre, glorieux et assurément éternel, empire. Mes séjours prolongés au sein des archives impériales m'ont permis d'exhumer plusieurs manifestes de cargaison d'époque, détaillant l'achat et le négoce de produits avec une communauté établie sur la côte occidentale de ce qui correspond désormais à la province volarienne d'Eskétia. Le volume croissant des traces écrites, léguées par cet échange au fil des siècles, témoigne de l'évolution économique et culturelle fulgurante de cette implantation étrangère, à tel point qu'elle finit par conclure un traité formel avec l'empereur Raoulun, le 10e élu à s'asseoir sur le trône alpiran. Les principaux articles de ce document, un accord sur les tarifs en vigueur et la protection mutuelle des vaisseaux face à la piraterie, ne sortent rien de l'ordinaire. Mais il apparaît clairement dans son préambule qu'à cette époque, les Kétiens entretenaient déjà une amère rivalité avec le port de Volar, situé à près de 500 km au nord-est. Un rapide coup d'œil sur n'importe quelle carte de la côte volarienne septentrionale suffit à expliquer pourquoi ces deux cités devaient inévitablement finir par se déchirer. Volar se dresse à l'extrémité d'un étroit et long estuaire connu sous le nom d'entaille de Locar, une voie navigable relativement facile à pratiquer, à en croire plusieurs marins de mon entourage, mais offrant une facilité d'accès aux routes commerciales boréélines bien moindre que Kétia, qui bénéficiait en sus de la richesse de ses terres arables, alors grande productrice de vin et de coton. Les décennies précédant le traité Kétien-Alpiran ont ainsi vu éclore de nombreuses escarmouches frontalières, ainsi qu'au moins une bataille majeure, à mesure que les deux ports se disputaient le commerce et le prestige de la région. Cependant, cette rivalité allait connaître un tour plus grave encore, avec l'avènement de l'hégémonie volarienne sur la plus grande partie du continent. Une période rétroactivement baptisée l'âge de la forge. Fort d'une doctrine militaire élaborée et d'une approche impitoyablement pragmatique de la diplomatie comme de la guerre, l'empire volarien naissant émergea en tant qu'entité distincte, voilà 8 siècles environ, époque à laquelle commence véritablement notre récit. Appréhender pleinement le cours des événements ultérieurs nécessite une certaine pénétration des différences et des similitudes entre les cultures kétiennes et volariennes. Loin de moi l'idée de glorifier l'une par rapport à l'autre, tant il apparaîtra bientôt, à mon empereur, que les deux peuples font état d'une bestialité sans commune mesure avec le raffinement infini de la société alpirane. À titre d'exemple, les deux sociétés disposaient d'un code juridique qu'on ne peut décemment que qualifier de barbare. Tout crime, si insignifiant fût-il, y était, et est encore aujourd'hui, passible d'exécution. Les coupables les plus sérieux encourant toute une série de tortures établies à l'avance avant de se voir octroyer la douce délivrance de la mort.